Cap à Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap à Cap avec Jean-Marc Andrieux. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors je reçois ce jour un musicien, un artiste, un homme de spectacle, un créateur et un homme très attaché notamment à l'art lyrique, mais pas que, et qui a permis à cet opéra occitan, que vous êtes peut-être allé voir et dont vous avez certainement entendu parler, Daphnis et Acilmadure de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville, de revenir en 2022 sur le devant de la scène, un opéra dont il va nous parler, puis mieux encore, il va nous le faire écouter. Bonjour Jean-Marc Andrieux.
Bonjour.
Alors, Conservatoire de Toulouse, Université du Mirail.
Oui.
Donc vous êtes un artiste local, si je puis dire, mais vous êtes un peu expatrié à Amsterdam aussi.
Oui, oui, bien sûr.
Qu'êtes-vous allé faire dans le Grand Nord?
Je suis allé étudier mon instrument de prédilection, qui est la flûte à bec. Du coup, je précise que ce n'est pas moi qui joue la clarinette dans le générique. C'est qui d'ailleurs?
Je ne sais pas qui.
C'est très joli en tout cas. Non,
c'est Pig Martini.
Ah oui, très bien. J'aime beaucoup. Donc oui, pour revenir à la flûte à bec, donc j'ai étudié effectivement au Conservatoire à Toulouse avec Pierre Thius, et puis après avoir eu mon prix, j'ai passé le concours pour être professeur au Conservatoire, et après je me suis dit, il faut quand même que j'apprenne sérieusement à étudier ces instruments. Et je suis allé à l'école, on va dire, la plus réputée au monde, c'était au Conservatoire d'Amsterdam à l'époque, où je suis allé étudier 2 ans.
Pourquoi le choix de la flûte à bec? Il y a tellement d'instruments.
Oui. Ça, c'est grâce à ma mère. Hein. En fait, j'ai appris au collège, comme beaucoup de victimes de la flûte à bec, hélas.
On jouait du pipeau à l'époque au
oui,
collège.
Oui, pipeau, hein, flûte à bec, ça a eu mauvaise...
Qu'est-ce que c'est exactement la flûte à bec? Comment vous la...
La flûte à bec, c'est un instrument à vent, on souffle dedans, donc, et on produit le son avec un système de sifflet, en fait, un biseau. Et après, il y a un tuyau plus ou moins long, avec lequel on fait les notes en bouchant des trous avec les doigts. Alors la différence entre le pipeau et la flûte à bec, le pipeau a 6 trous, la flûte à bec en a 8, dont un pour le pouce de la main gauche, pour être très précis techniquement.
Voilà, merci de, voilà, merci de ces précisions. Donc vous avez fait ce choix influencé par votre mère.
Et oui, parce qu'en fait, elle était prof de musique, je l'ai eue comme prof, c'était pas marrant d'ailleurs, parce qu'elle était très sévère avec moi. Mais en tout cas, elle a été très sérieuse avec cet instrument-là. La plupart des profs de musique à l'époque ont fait jouer de cet instrument-là sans trop de conviction. Par contre, ma mère, elle s'y est intéressée sérieusement. Elle a étudié elle-même avec Jean-Claude Veillant, voilà, elle a fait un stage. Et après, elle nous a appris correctement, et moi j'ai trouvé ça magnifique, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai continué, et me voilà.
Donc vous avez eu un bon professeur, parce que moi aussi j'ai fait des pipeaux. Moi aussi je me souviens de l'air qu'on m'a rentré de force dans la tête. Je ne vous le chanterai pas parce que je chante faux, mais ça reste...
Non,
on ne va pas se ridiculiser. Mais ça reste quand même, malheureusement, quand vous n'avez pas un professeur qui y met du sien.
Ça, c'est important.
Et qui sait transmettre surtout la passion.
Et oui, les enseignants qu'on a eus jeunes, ça nous marque pour la vie après.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Mais on ne se souvient pas de tous, hein, sur une vie de...
La mémoire est sélective.
Oui, elle est sélective, mais on retient les meilleurs, et je les compte sur le doigt d'une main, ce qui me concerne. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, vous êtes devenu professeur de flûte à bec et de chant choral.
Et après, je tourne un peu en rond là avec ma mère à Gaillac, dont j'étais à Gaillac, qui avait créé une chorale dans laquelle je chantais. J'aimais beaucoup chanter. Puis quand je suis rentré à l'université, j'ai chanté avec Alice Bourbon. Et j'ai découvert le grand répertoire choral, Bach, Handel, ça m'a émerveillé. Donc j'ai monté moi aussi mon petit chœur à Toulouse à l'époque. Et puis j'ai fait des études de direction de chœur pour arriver aussi à ce diplôme aussi de professeur de chant choral.
Ce ne peut pas être ordinaire qu'un musicien fasse aussi du chant choral. Ce sont quand même deux techniques différentes, deux trajectoires différentes.
C'est deux mondes différents, instrumental, vocal, complémentaires, et qui se rejoignent justement dans la musique que je pratique, la musique baroque. la pratique instrumentale est très liée à la pratique vocale.
Alors, musique baroque, qu'est-ce que c'est finalement pour nos auditeurs qui ne seraient pas versés?
Oui, bien sûr, c'est une époque en fait, c'est pas un style, parce qu'il y a plusieurs styles différents, mais c'est une époque de l'histoire de la musique. La Renaissance, c'est au XVIe siècle, et à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, aux alentours de 1600, il y a une révolution musicale qui s'opère avec Monteverdi notamment. La naissance de l'opéra, ça doit, vous devez
oui, ça me parle.
Savoir de quoi on parle là. Oui. Et donc, au début de ce XVIIe siècle naissant, les Italiens inventent une nouvelle façon d'écrire la musique, hein, avec, au contraire de la polyphonie de la Renaissance qui devenait trop compliquée, on simplifie le langage, on fait référence à l'Antiquité et on écrit avec une seule voix accompagnée par une basse qu'on appelle la basse continue. Un peu comme le jazz, hein, ça marche un peu pareil. Et ça, cette technique d'écriture va durer jusqu'à peu près, c'est difficile, les bornes, on ne peut pas borner comme ça, mais à la moitié du XVIIIe siècle, jusqu'à la moitié, pendant un siècle et demi, on va avoir donc cette naissance de l'opéra, la naissance du style concertant, la basse continue, et puis à la fin de cette période, c'est Jean-Sébastien Bach qui va clôturer un peu ça, on va avoir l'héritage de Bach avec Mozart, avec la période classique. Donc c'est cette période d'un siècle et demi.
Et que vous allez retrouver à travers l'orchestre baroque Les Passions que vous avez créé.
Oui. Voilà. Alors avec l'orchestre, on a exploré tout ce répertoire. Ça va donc de Monteverdi à Mozart, en passant par Bach, Handel, Vivaldi, Rameau, Scarlatti, tous ces compositeurs-là qui sont quand même connus. Plus aussi le principe de découvrir des partitions qui sont cachées dans les bibliothèques.
On en retrouve encore.
Alors là, il y en a des mètres cubes et des mètres cubes. C'est ça le grand bonheur dans cette musique-là. Ce matin, j'étais encore à la bibliothèque de Toulouse, rue du Périgord, et j'ai découvert encore des opéras dont je n'avais jamais entendu parler.
À la bibliothèque
de Lacoste.
Je ne savais pas qu'il y a banqué pas mal travaillé à cette bibliothèque dans mes vertes années quand j'étais à la fac de droit.
Les fonds musicaux anciens, c'est un des plus grands fonds en France, il y a plus de 8000 partitions.
Oui. Vous avez un travail d'investigation important devant vous.
Alors ce travail, le catalogue a été fait par Jean-Christophe Maillard, qui était musicologue, que vous avez peut-être connu, qui nous a quittés il y a 6 ans maintenant, hélas, et qui m'a sensibilisé sur ce patrimoine, ces partitions, notamment ce fameux Daphnis et Alcimadur dont on reparlera bientôt.
Et puis vous êtes devenu directeur du conservatoire de Montauban, alors là vous y êtes resté 30 ans, c'est ça?
Oui, 30 ans, c'est vite passé, je peux vous dire que j'ai pas vu le temps passer.
Et vous avez dû le marquer ce conservatoire, 30 ans, c'est quand même un mandat important, c'est un mandat de président russe quasiment. Mandat poutinien, mais pas avec les mêmes méthodes, j'imagine.
Pas toujours, quand même, non. Non, l'élimination physique, je l'ai pas eu besoin, pas souvent. Non, alors au-delà de ça, non, j'ai passé 30 ans merveilleux avec des profs, une équipe que j'ai eu la chance de travailler avec eux. On a monté plein de projets, on a créé des horaires aménagés avec 6 établissements scolaires. J'ai créé le département danse, on a fait tellement de choses, des spectacles, enfin voilà, je suis très très heureux de tout le travail qui a été fait, une relève a été assurée et ça se passe très bien, écoutez, il n'y a pas aucun souci en tout cas.
C'est un conservatoire important.
Oui. Alors, on regroupait la musique, la danse et l'école de dessin aussi. Donc, c'était le pôle des enseignements artistiques. Et en tout, ça faisait un total de 1400 élèves.
Oui, c'est énorme.
Et une équipe pédagogique de 70 professeurs à peu près. Ça fait quand même une grosse boutique.
Et ça, c'était placé sous la houlette du maire ou de l'éducation nationale?
Alors non, l'Éducation nationale n'y participe pas. C'est le Grand Montauban, donc la ville de, enfin oui, la communauté d'agglomération du Grand Montauban qui est notre collectivité référente. Et puis sinon, on a une petite subvention et le contrôle pédagogique du ministère de la Culture.
Et pourquoi l'Éducation nationale ne s'intéresse pas aux arts vivants,
parce qu'il y a un ministère de la Culture. Pour faire ça. Et l'Éducation nationale, on a des collaborations avec eux pour les horaires aménagés, par exemple. Et de plus en plus, les conservatoires collaborent, ce dont je me réjouis. Il était temps, hein, de plus en plus, des liens étroits avec justement les établissements scolaires.
Donc musicien, chef de chant, pédagogue et directeur du conservatoire. Et pourtant, un jour, vous dites, je vais monter un opéra qui est Daphnis et Alcibadure, alors, monsieur, qui s'appelait Mondonville. Alors, qui c'était ce monsieur Mondonville?
Ah oui, alors, donc,
il faut en parler quand même, parce que c'est lui qui a été à l'origine.
Bien sûr. Oui, en fait, je reviens à Jean-Christophe Maillard. C'est lui qui avait fait le catalogue des fonds musicaux anciens. Ça date de 2000, hein, c'était, ce catalogue, il est ancien. Mais même avant, il m'avait dit, tu sais, il y a cet opéra, c'est le seul écrit en occitan, il faut absolument que tu montes ça, c'est pour toi. Bon, bref.
Est-ce que vous êtes très attaché à la langue occitane?
Oui.
Vous le parlez?
Alors, je peux pas dire que je peux tenir longtemps, mais disons, je pourrais parler une conversation soutenue avec un enfant de 8 ans, quoi.
C'est déjà pas mal, oui, effectivement.
Voilà. Mais donc, non, ça m'intéresse bien. Au-delà de ça, c'est quand même notre patrimoine. C'est de la musique magnifique, on va l'entendre d'ailleurs. Et alors, quand j'ai monté l'orchestre, c'était en 1986. À ce moment-là, je savais qu'il y avait cet opéra et j'avais en ligne de mire d'arriver à le monter. Il y a eu depuis des péripéties dont je vous passe les détails, ça n'a aucun intérêt. La dernière étant, quand même, il faut que j'en parle, c'était en 2020, on devait le créer au Festival de Radio France à Montpellier.
Oui.
Et il y a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un virus, non?
Oui, vaguement, on le dit. On l'a oublié un peu,
oui,
maintenant.
Oui, en attendant, ça nous a mis le projet par terre, ouais. Et donc on n'a pas pu le faire.
Mais
et
ça a décalé dans le temps.
Ça a décalé de 2 ans, et j'ai réussi quand même. Alors, on a fait des économies, on a été accueillis par le Théâtre du Capitole, et on a réussi quand même à le créer.
Et au Théâtre Montauban. Et au Olympe de Gouges de Montauban.
Au Théâtre Olympe de Gouges à Montauban, voilà.
Un très,
1er
très
octobre
théâtre.
2022, beau théâtre, voilà, oui. Où on a enregistré d'ailleurs. Et puis après, une reprise au Théâtre du Capitole. Tout ça a fait que, finalement, ici est arrivé.
Voilà, vous parlez parfaitement. Alors, ce Jean-Joseph Cassanea de Mondonville,
ah
c'était
oui, c'est
qui
vrai.
Vous ne l'avez
c'est
pas
vrai.
Dit, c'était qui?
Ah là là, j'ai divagué, je vous prie de m'excuser.
Ah mais je vous remets dans la partition. Hein.
Alors, ce fameux Mondonville, donc, rien à voir avec notre petite ville de Mondonville à côté
oui,
de
Oui, j'allais
Toulouse,
vous dire ce qu'il
d'ailleurs,
était.
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mmh. En tout cas, la famille est originaire de Bordeaux, mais le père de Mondonville va s'installer à Narbonne. Et là, il sera maître de musique à la cathédrale de Narbonne. Et le jeune Jean-Joseph, donc, de Mondonville, va étudier le violon et on va s'apercevoir qu'il est c'est un super doué, quoi, un surdoué du violon. Il est né en 1711, il faut que je le précise.
L'opéra donc, date de 1754.
Exactement. Très bien, c'est ça.
Voyez,
oui,
oui. Non, mais j'ai des fiches.
Bravo, magnifique. Donc, en 1711, il naît à Narbonne. Il commence à apprendre la musique avec son père et tout de suite, on se rend compte qu'il a des dons exceptionnels, je l'ai déjà dit. Et très rapidement, on ne sait pas trop après son apprentissage comment il s'est effectué, mais il se retrouve à Paris, à peu près à l'âge de 20 ans. Et là, il fait une carrière de virtuose. De violoniste virtuose, et il va obtenir les plus grands postes en vue à la capitale, maître de la chapelle royale, c'est-à-dire compositeur de la chapelle de Louis XV, compositeur d'opéra, il en a écrit quelques-uns. Il va diriger aussi le concert spirituel, c'était cette structure qui donnait des concerts régulièrement sur abonnement. Enfin bon, c'était quand même une des grandes stars à l'époque de Louis XV en France.
Oublié aujourd'hui, parce que personne ne parle de Mondonville.
Alors, oublié du grand public, Radio Nostalgie, ils ne doivent pas en passer souvent du Mondonville.
Sur d'autres radios que je connais non plus. Hein.
Voilà, je sais pas pourquoi je cite ça.
Nous allons être les seuls à passer du Mondonville aujourd'hui.
Avec peut-être France Musique aussi qui doit en diffuser. Mais
je l'espère.
Tout à votre honneur, je vous remercie infiniment de votre invitation pour parler de ce super compositeur. Alors, il a été contemporain de Rameau. Alors, lui est plus connu.
Oui,
Jean-Philippe Rameau,
oui.
Voilà. Et donc, on voit même que dans les œuvres de Mondonville, il y a quelques morceaux qui ressemblent à du Rameau.
Bon, maintenant que vous nous avez mis l'eau à la bouche, on en écoute un premier.
Allez, un petit extrait
c'est
d'ailleurs.
C'est vous qui avez choisi. Donc,
oui, alors le premier que j'ai choisi, c'est un air du pays. Parce que Mondonville, qui était, il était coquin, dans son opéra, il a inséré des morceaux du répertoire traditionnel. Donc c'est un air qui s'appelle Pulido Pastorello, jolie bergère, tout le monde aura compris. Et c'est donc Daphnis, le berger amoureux d'Alcimadure, qui chante cette air traditionnel, orchestré par Mondonville.
Donc Daphnis, c'est le berger, Alcimadure,
c'est la bergère.
C'est la bergère, voilà, on va avoir la réponse du berger à bergère, donc, certainement.
La réponse de la bergère au berger.
Allez, nous écoutons. Voilà, la pastorale languedocienne, c'est ça l'air du pays, comme vous l'avez dit, chanté par Daphnis.
François-Nicolas Gélot, qui chantait le rôle de Daphnis. Il a une voix typique de la musique française, il est haute contre, c'est-à-dire c'est un ténor aigu. Il y a une tradition de ténor très aigu, vous le savez.
C'est ce qu'on appelait les castrats autrefois.
Eh non.
Pas tout à fait, c'est un peu en dessous.
Non, ils ont gardé leur outillage.
Oui, d'accord, mais pour autant,
mais ils ont une
c'est
voix,
les contre-ténors.
On peut en parler techniquement.
Oui,
le contre-ténor, il chante en voix de tête tout le temps.
Oui.
Tandis que la haute contre, il chante en voix de poitrine, mais mixte. Et il mixte et il mélange sa voix de poitrine, sa voix de tête dans l'aigu. C'est une technique spéciale du chant français. Et donc, c'est les hautes contres.
Donc, les hautes contres. Alors, cet opéra, comment ça s'est passé, la création? Parce que quand vous avez dit « je vais exhumer cet opéra », bon, les gens n'ont pas dû sauter de joie, forcément, parce que c'était compliqué.
Si. Tout le monde était bien content, et notamment tous les amis qui aiment bien le répertoire.
Une fois qu'on a dit ça, il faut le monter, c'est-à-dire qu'il
après,
faut déjà trouver des sous, ça coûte extrêmement cher, création.
Alors, tout simplement, on ne l'a pas mis en scène parce que c'était pas possible financièrement, mais ce qu'on a fait, en bon gestionnaire, au niveau de l'association des passions, on a mis de l'argent de côté chaque année jusqu'à ce qu'on arrive à à rassembler les fonds.
Technique voilà. De la fourmi.
Et oui, il n'y a pas le choix. Hein,
les passions, on a beaucoup parlé des passions que vous dirigez, c'est votre orchestre.
Oui.
Vous pouvez nous en dire deux mots. Quoi.
Bien sûr, c'est un orchestre que j'ai créé à Toulouse en 86, donc la même année que Tchernobyl. Bon, mais ça s'est mieux passé pour nous. Oui, et donc ensuite...
Tchernobyl, le Covid, vous êtes habitué aux grands événements.
On a des repères. Hein. On ne va pas parler de 2001. Alors, je crée l'orchestre à Toulouse et on décide, comme les musiciens, ça leur a bien plu, c'était des amis du conservatoire de Toulouse. Quand je suis devenu directeur du conservatoire à Montauban, le maire à l'époque... Roland Garrigue a accepté d'accueillir l'orchestre en résidence à Montauban. Et on y est toujours. On s'est appelé Orchestre Baroque de Montauban en 91-92. Et puis après, en 2003, quand on a été, on a obtenu une aide de la DRAC, une aide du ministère de la Culture, on a changé de nom, on s'est appelé donc Les Passions. Alors Les Passions, on est passionné. La musique baroque, elle est influencée par le Traité des Passions de l'âme de Descartes, 1650, que vous connaissez, ça c'est quand même un texte fondateur. Et puis Les Passions de Bach, que j'avais fait aussi avec succès. Du coup, tout ce mot passion a résonné et a donné le nom à l'orchestre.
Voilà. Et c'est l'orchestre qui joue à l'année ? Vous êtes nombreux ?
Alors c'est un orchestre, comment dire, à géométrie variable. Suivant, les effectifs varient en fonction des programmes. Si on fait de la musique de chambre, on sera moins nombreux que si on fait un opéra.
Bien sûr.
Et puis, s'il y a beaucoup d'argent, on sera plus nombreux que s'il n'y a pas un rond. Enfin, c'est toujours comme ça que
oui,
ça marche.
A priori, oui.
Voilà. Alors, du coup, ça va de 3 à 45.
Oui,
voilà,
ce qui est déjà bon, c'est un beau plateau, 45.
Une bonne marge. Là, pour Daphine Zassimadur, on était 45 sur scène. Ça fait un très beau plateau. On compte les chœurs, 4 solistes et un bel orchestre.
Voilà. Donc, c'est quand même, c'était un périmètre extrêmement important. Vous étiez en plateau combien ? 50, 60 ?
45.
45 musiciens ?
Oui.
Plus les 4 chanteurs.
Non, en tout. Le en total, tout. Ça faisait 45. Bon, mais pour la musique baroque, c'est pas mal. Hein. C'est pas du Wagner. Hein.
Certes, mais donc cet opéra, il faut toujours parler d'argent, vous savez.
Mais
ça doit coûter une fortune. Parce que vous l'avez joué deux fois.
Trois fois. On l'a fait une fois à Montauban. On l'a créé une fois à Montauban le 1er ou le 2 octobre au Théâtre Olympe de Gouges. Et après, une reprise les 12 et 13 octobre au Théâtre du Capitole. Alors pourquoi trois dates ? Bon, tout simplement pour bénéficier d'une aide du CNM, Centre National de la Musique, vous connaissez. Et alors, on obtient une aide financière si on fait trois dates. Donc, on a fait trois dates et on a obtenu une subvention du CNM.
Sans rentrer dans les détails comptables, bien évidemment, mais l'enveloppe, ça coûte quoi, ce genre de choses ?
Écoutez, à la louche, je dirais à peu près 160 000 euros.
Oui,
voilà, la production entière, à peu près, c'est ça.
Donc
voilà.
Vous avez fait les fourmis pendant un moment, quand même.
Oui, un bon moment.
160 000 euros. Alors, on pourrait vous dire, 160 000 euros, vous l'avez joué trois fois et puis c'est terminé. Ça fait quand même beaucoup d'argent uniquement pour trois représentations.
Oui, il y a le disque, puis on a fait quand même beaucoup d'opérations scolaires avant, pendant et après. Hein, on continue de faire vivre cette production. On a fait, une opération scolaire à Béziers, chez nos amis du CIRDOC, à Béziers. On a enregistré aussi une captation du concert au Capitole. Donc ça vit toujours sur POM TV, POM.TV. Là, on peut voir le concert en vidéo, et on a encore des projets de reprise, non seulement milieu scolaire, mais on a des contacts aussi avec des salles pour le redonner. Alors peut-être pas à 45, parce que là ça devient économiquement difficile à vendre, mais je suis en train de réfléchir à une version light. Quoi.
Comment c'est reçu par... Alors vous êtes allé dans des écoles, donc sensibilisation, vous avez expliqué la musique baroque, vous avez expliqué cet opéra, vous avez expliqué Mondonville, et puis vous l'aurez fait écouter à tous ces jeunes.
Alors, on a joué même. Hein. Oui. Alors,
vous avez joué.
Oui, on a joué. On a fait à Béziers. Ça s'est passé avec Muriel Babi-Castel.
Oui, donc, que nous connaissons bien ici. Oui, bien sûr.
Elle a son rond de serviette ici.
Absolument.
Elle est connue. Et donc, elle est venue avec nous pour parler justement. Alors, on a fait surtout ces actions scolaires dans les écoles occitanes, dans les calandrettes ou dans les collèges, lycées qui ont l'option de l'occitan. Et tout ça s'est passé dans leur langue. Et ils ont adoré. Les enfants, ils ont chanté.
Comment ils l'ont reçu, Will ?
En fait, ils l'ont tellement bien reçu qu'on leur avait envoyé les musiques qu'ils ont chantées avec nous. Il y a deux chansons qu'on leur a fait chanter avec nous. Et on a expliqué le violon baroque, j'ai expliqué la flûte, on a expliqué la musique baroque comme j'ai fait, la basse continue, toutes ces choses-là. Ils ont reçu ça avec un enthousiasme qui m'a étonné. Hein. Vraiment, les enfants, ils étaient formidables.
Vous pensez que si vous étiez allé dans un lycée, un collège classique, et pas dans une calandrette, l'accueil était différent ?
Certainement pas, parce que je le fais, pas que pour Daphnis, mais chaque fois qu'on fait des concerts, on essaye de faire des séances scolaires. À tous les coups, ça marche.
Parce qu'un opéra, pour le chanter en allemand, en italien, en anglais parfois, rarement, et puis en occitan, ça ne change pas grand-chose finalement.
Non,
même
non,
pour,
non, non.
Pour ceux après, qui ne comprennent
si on,
pas la langue.
Si on leur raconte l'histoire, si on les prépare, évidemment, si vous les mettez comme ça, et encore, vous les envoyez dans une salle au Capitole, à l'opéra, ils vont être scotchés.
Tout à fait. C'est ça, c'est la magie du spectacle vivant.
C'est la magie, c'est ça. C'est avec ça. C'est pas en leur faisant des raisonnements. Non, non, non. C'est vraiment la musique vivante qui touche les enfants.
Mais avant, il faut expliquer. C'est comme quand vous allez voir une exposition de peinture. C'est quand même bien qu'on ait
des clés pour comprendre.
Voilà, des clés pour comprendre, surtout pour mieux profiter, pour prendre plus de plaisir, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement.
Tout à fait. Ça, c'est important. Et là, il y a ce mot qui revient toujours maintenant, c'est le mot médiation. On explique.
J'ai jamais compris d'ailleurs. Que ça voulait. La médiation entre deux personnes qui se disputent, j'ai compris, mais pour expliquer la
en
culture...
En tout cas, maintenant, c'est un mot à la mode.
Oui, alors maintenant, il faut parler de médiation si on veut avoir des subventions, effectivement.
Ça rime, hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, vous avez dit, en occitan, c'est le seul opéra que nous ayons. Est-ce qu'il y a, dans d'autres langues régionales, le basque peut-être, le breton, le catalan, est-ce qu'il y a d'autres opéras que vous connaissiez?
Alors
où,
là,
où ça, c'est notre ça, grande c'est spécificité.
Alors, au niveau de l'occitan, dans les autres langues, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Ça, là, basque, non, je ne sais pas. Je ne connais pas d'opéra en basque. Il y a peut-être qu'il y en a, mais alors, peut-être côté espagnol, ils sont plus actifs. En tout cas, nous, chez nous, en Occitanie, le premier... alors, Mondonville n'a pas été, on va dire, honnêtement, ça n'a pas été le seul. Il y a Mouret, qui est de Provence, qui a, dans un de ses opéras, 1714, les fêtes de Thalie, il y a un petit passage où il y a du provençal. Et peut-être que c'est ça qui a donné l'idée à Mondonville d'écrire cet opéra entier en occitan. Bon, il y a d'autres raisons que je pourrais vous expliquer. Et puis après, plus près de nous, il y a eu Béatrice de Planisolas, je crois, un opéra alors composé par Jacques Charpentier, compositeur à la fin du XXe siècle. Et après, je crois qu'il y a eu d'autres pièces. Mais en tout cas, à l'époque baroque, c'est clair que là, Mondonville, c'est le seul.
Et aujourd'hui, la création en occitan, ça vous semblerait quelque chose d'extraordinaire ?
Ah, moi j'aimerais bien. Ça me plairait.
Pourquoi vous ne le faites pas ?
160 000 euros sur la table, je vous le fais tout de suite.
Bon, c'est pas ici que nous allons les trouver, je vous le dis de suite. Allez, on réécoute un autre morceau, le second que vous avez choisi, le deuxième, puisqu'il y en aura un troisième.
Oui, alors là, on a entendu Daphnis, donc le jeune berger amoureux d'Alcimadure. Cette Alcimadure, c'est une...
Mais parce que vous n'avez pas raconté l'histoire. Hein.
Oh, je ne vais pas la raconter.
Non, mais en deux mots, allez.
Mais alors, il est amoureux d'elle. Il est amoureux d'elle et elle n'en veut pas. D'ailleurs, on va l'entendre, elle va chanter avec les petits oiseaux. Elle ne veut pas entendre parler du mariage, elle préfère la liberté, et il y a ce premier air qui chante Gazouillat, Auselets, chanter petits oiseaux, elle préfère être libre. Et donc, le pauvre Daphnis, il est très triste. Il y a pas mal d'air d'ailleurs qui illustre cette tristesse, bref. Et Alcimadure, elle a un frère qui s'appelle Janet, et son frère... Il aimerait bien quand même, il le trouve bien ce Daphnis. Et alors, avec.
Il est trop bien pour lui ou pour elle?
Pour elle. Il trouve que ce serait.
Tandis qu'aujourd'hui, ce serait lui qui.
Tout à fait, oui. Voilà. Ah ben oui, là, on pourrait voir des versions, hein. Bien sûr. Oui. Non, mais là, non, on est. Et alors, ce Janet, il arrive avec Daphnis et la participation de Lou à un moment qui met la panique dans le village. Il y a Lou à un moment, hein. Mais ils arrivent à enfumer Alcimadure et ça finit bien. Parce qu'en fait, le livret d'origine, c'est sur une fable de La Fontaine. Et cette fable de La Fontaine, ça finit très mal. Mais à l'époque, un opéra...
ça se devait de bien finir.
Oui.
Et alors, qu'est-ce que Clémence Isaure vient faire dans cette histoire ?
Clémence Isaure, elle chante le prologue. Alors, elle n'est pas dans l'action de l'opéra, mais à l'époque, en France, avant l'opéra, il y avait toujours un prologue. Ce prologue, il était la plupart du temps à la gloire du roi. Il fallait...
C'était la mise en bouche ou...
Exactement.
Les actualités chez Paramount à l'époque, quoi, c'est ça.
Oui, un peu, c'est ça. Et en plus, il fallait chanter les louanges du roi. D'ailleurs, si le roi n'était pas présent, on faisait l'économie du prologue. Donc, cette fois-ci, ce prologue, eh bien, il n'est pas à la gloire de Louis XV. C'est plus tard dans l'opéra qu'il va y avoir un air pour Louis XV. C'était incontournable. Mais il y a un prologue qui est chanté par Clémence Isaure parce que c'est un petit peu l'emblème, même à cette époque baroque, de la culture occitane. Et donc, elle va dire que dans nos pays, on chante l'amour et tout va bien pour chanter l'amour. Enfin, voilà, bref. Et donc là, ce qu'on va entendre, c'est Alcimadure, j'y reviens, à cette bergère qui va nous faire un petit air des gazouillis avec les oiseaux qui seront joués par les violons.
Allez, gazouillons. Voilà, Élodie Faunard, Alcimadure, qui chantait avec les oiseaux. Et alors, on n'a pas tout entendu, parce qu'on n'écoutait pas, il faut dire, on parlait. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, là ?
Gazulia sauzeles alubre del fuliage, vous célébrez la libertad.
Ouais, vous avez un bon accent pour un homme qui parlerait qu'avec un enfant de 8 ans, c'est bien.
Ouais, non, mais il y avait ma grand-tata qui me parlait en occitan, je l'ai toujours dans l'oreille. Et ça veut dire, ouais, voilà, gazouiller petits oiseaux, à l'ombre des feuillages, vous célébrez la liberté. C'est son premier air là, et c'est déjà un premier air un petit peu de virtuosité vocale. Mmh. Il était chanté à l'époque par Marie Fell, qui était originaire de Bordeaux, qui devait chanter un peu en gascon du coup, et qui était la grande star, c'était la superstar de l'art lyrique à l'époque de Louis XV. Et le rôle de Daphnis, le berger, c'était Géliot. Géliot, c'était la haute contre, lui aussi c'était la superstar originaire de Pau, il était béarnais. Et Jeannette c'était Trial qui était originaire de Toulouse. Donc là aussi, Mondonville, il s'est pas trompé. Il savait très bien qu'il allait recruter les trois meilleurs chanteurs du royaume qui venaient de son pays, de l'Occitanie.
Alors quand vous avez joué à Montauban et à Toulouse, le public c'était qui ? C'était des occitanistes convaincus, c'était monsieur tout le monde.
On a eu beaucoup de monde, ça nous a vraiment fait très plaisir parce qu'il y a eu une période compliquée. Les gens sont venus au rendez-vous, on a vraiment rempli les salles. Alors je pense qu'on a eu la chance d'attirer évidemment les gens qui connaissent l'Occitan et qui attendaient cet événement. Je pense que beaucoup d'occitanistes, on a d'ailleurs fait relayer l'info au milieu des...
On peut être occitaniste et pas forcément amoureux d'opéra et inversement.
Oui, mais les gens ils sont venus pas par défaut mais par qualité. C'est-à-dire que je crois que quand même ils se sont dit un opéra en Occitan, il y en a qu'un, on peut pas le rater.
Oui, ça oui. C'est sûr que puis, oui, c'est comme l'éclipse de lune quand il y en a une tous les 30 ou 40 ans.
Voilà, on n'est pas obligé d'être astronome pour regarder
voilà.
Ça. Voilà. Et puis, les amateurs d'opéra, curiosité quand même, c'était une œuvre qu'on n'entend jamais. En fait, elle avait été enregistrée en 1981, partiellement, la moitié peut-être, au Festival de danse de Montpellier. Pas dans des conditions idéales, il y a un vinyle introuvable maintenant, mais sinon depuis il n'y a jamais eu d'enregistrement et donc c'était quand même assez, un événement assez exceptionnel.
Si on met de côté les jeunes dont on parlait tout à l'heure, votre public, il avait quelle moyenne d'âge? Vous n'êtes pas passé dans toutes les travées, je me doute, mais bon, aujourd'hui quand même, c'est vrai que l'opéra en France, parce que si vous allez en Italie, la problématique est différente, en France c'est plutôt l'homme blanc de plus de 60 ans, un peu friqué, qui sort sa femme ou sa maîtresse, ou les deux en même temps.
C'est... Pas que l'opéra, malheureux, c'est toute la musique classique.
Oui, alors aujourd'hui ça veut dire appauvrissement, ça veut dire standardisation et nivellement par le bas aujourd'hui, la culture,
ça veut dire qu'il y a du boulot et je ne sais pas très bien à quel moment les jeunes décrochent, quand est-ce qu'ils... Parce que quand même, on fait tout ce qu'on peut.
Ils décrochent très tôt, vous connaissez la malédiction des écrans aujourd'hui.
Les écrans et puis qu'est-ce qu'ils écoutent sur les plateformes et, parce que là, maintenant, 80% de ce qu'ils écoutent, c'est sur
les plateformes.
Les plateformes et il y a quoi là-dessus? Il n'y a pas d'opéra.
Il
n'y
a surtout pas une qualité musicale extraordinaire,
Alors moi je peux pas vous dire parce que j'écoute pas, alors donc je saurais pas. Et bon, j'ai des enfants qui écoutent de la musique, on va dire, de jeunes. Il y a quelques trucs qui sont bien quand même, mais il faut quand même écouter de tout.
Mais l'opéra a besoin de démocratiser et de rajeunir aussi.
Oui,
il y a quand même un gros travail à faire là-dessus.
Oui, tout à fait. Et je pense que plus on amène les enfants au spectacle. Plus ça marche.
Oui, c'est comme chez McDonald's, quoi. Il faut, on amène les parents et là, il faudrait que les parents amènent les enfants.
Ouais.
Mais est-ce que l'éducation nationale joue son rôle? Vous me disiez tout à l'heure, c'est le ministère de la Culture. On ne voit pas très agissant le ministère de la Culture. Il y a quand même dans les lycées, dans les collèges, il y a des professeurs de musique. Nous en avons un ici qui s'appelle Romain Lapeyre, que je m'appelais à citer.
Ah oui, Romain
est un garçon de grande qualité.
Mais il y en a de moins en moins.
Donc vous connaissez le père, je suis sûr.
Oui.
Mais t'as âge, c'est ça.
Oui.
Voilà. C'est un petit monde, finalement.
Mais oui. Mais l'éducation, il y a un souci. Hein. C'est pas que la musique. Hein. L'éducation nationale ne va pas bien en ce moment.
Et oui, justement, alors est-ce que le fait qu'elle n'aille pas bien, on ne va pas mettre un peu tout ce qui est culturel un peu de côté? On risque d'accélérer une tendance.
Il y a des opérations, il y a des actions qui sont faites, tout le monde s'y met, retrousse les manches, mais disons que pour le moment, c'est un champ de ruines qu'il va falloir reconstruire. Moi, je le vois comme ça. Hein,
on a parlé de la possible disparition de l'art lyrique à une certaine époque.
Et c'est-à-dire que le problème, c'est que ça coûte quand même, ça coûte cher.
Qui c'est qui peut se payer un billet? Vous disiez tout à l'heure 160 000 euros, donc j'imagine que les billets étaient un peu en rapport avec le coût.
Non, c'était 20-25 euros les places, 30 peut-être les plus chères. Non, c'était abordable, je crois.
Je ne sais pas, 30 c'est déjà cher pour beaucoup, vous savez, quand vous êtes dans un salon du livre et que... Les gens qui ont vendu des livres à 10, 11 ou 12 euros vous demandent, avant de regarder la quatrième de couverture, quel est le prix du livre. Vous vous rendez bien compte que il y a un problème. Ouais, donc 30 euros, c'est quand même excessivement cher pour beaucoup.
Oui. Mais ça, on aborde un sujet très très complexe qui est l'accessibilité à la culture.
Est-ce que les mécènes privés sont une solution pour vous? Parce que si on regarde la subvention publique aujourd'hui, elle est quand même en baisse.
Bien sûr.
En dehors du fait que,
on s'en est aperçu,
que nos élus ne sont pas forcément, n'ont pas un niveau culturel extraordinaire. Je citerai tout à l'heure un livre que beaucoup devraient lire, et peut-être vous l'avez lu, donc je vous le citerai tout à l'heure, vous le commenterez.
Oui. Ouais.
Mais c'est vrai que quand vous parlez avec des élus, culturellement, ça vole quand même assez bas. Hein. Toutes tendances confondues d'ailleurs.
Il y en a quelques-uns, il y a quelques-uns qui sont cultivés, d'autres, oui, mais il faudrait faire, oui.
Et donc la subvention diminue s'il y a moins de connaisseurs, s'il y a moins
d'amoureux.
Dans
une mairie, c'est le maire, le patron. S'il est intéressé, ça marche. Si le maire n'est pas intéressé, s'il a un adjoint à la culture qui est là pour la photo, ça ne marchera pas. Voilà, c'est simple.
Donc est-ce que le mécénat,
on est dans une région difficile, le mécénat culturel, l'environnement, si vous voulez que j'en parle, d'abord le mécénat il va d'abord au rugby, voilà, c'est plié, et puis ce qui reste, ça va au Capitole, à Aïda, qui rafle, enfin pardon, c'est pas un joli mot, mais enfin qui capte, 84,
comme voilà, nos amis anglo-saxons.
Voilà, qui est 95% du potentiel de mécénat. Et puis après, on a des miettes. Voilà.
Et donc, les temps sont durs.
Ah ben oui, je ne le fais pas dire. Mais on est toujours vivant. Hein.
Est-ce qu'il y a aussi, alors c'est très à la mode, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a un problème de verdissement de l'opéra ? Aujourd'hui, l'opéra, c'est quand même très consommateur de CO2. C'est une question qui est abordée par un certain nombre de directeurs d'opéra aujourd'hui, qui essayent de réfléchir et de voir comment...
Le bilan carbone d'un opéra, ça je sais pas trop. En tout cas, moi je pense que nous, pour Daphne Saltimadure, on n'a pas dû dépenser trop de
CO2.
De CO2, je crois pas. Enfin si, il y a eu des musiciens qui se sont déplacés, ils sont venus la plupart en train. Et puis après, on n'a pas je crois pas qu'on n'a pas trop consommé.
Là, vous avez joué à Montauban, vous avez joué à Toulouse, donc vous avez joué dans des opéras connus, des véritables institutions. Qu'est-ce qu'il en est des déserts culturels dans nos campagnes ?
Alors, on y va. Alors, avec Daphnis, je vous l'ai déjà dit, on a tourné dans des... alors, j'ai parlé de Béziers, mais on a fait aussi la même opération... dans les Landes, à Dax, Mont-de-Marsan, on a fait aussi pas mal d'opérations scolaires là-bas. Et concernant après l'irrigation du milieu rural, eh bien, on joue, enfin, en petite formation, partout dans les campagnes, là où on peut. Le festival Passion Baroque, bientôt, qui va avoir lieu, on va jouer dans des villages du Tarn-et-Garonne sans problème.
On avait parlé de trois morceaux en démarrant, on écoute le troisième.
Alors, le troisième, ben, on a entendu Daphnis, on a entendu Altimadure, il ne nous reste plus qu'à entendre Janet. Alors, Janet, c'est un rôle de taille, à l'époque ça s'appelait taille, c'est un ténor. Et ce rôle de ténor, il est un peu vaillant. Et alors, à un moment, quand il fait la connaissance de Janet, de Daphnis, il teste un peu, il essaye de voir ce qu'il a dans le ventre. Et il lui dit, ouais, tu es amoureux, mais bon, pense à autre chose, va te balader. Anas, Benes, Passejas, Bous, Arpentas, Culinos, Montagnos. Alors il lui conseille d'aller se promener dans les montagnes. Et évidemment, Daphnis va lui dire, non, moi ça ne m'intéresse pas, moi je veux m'occuper d'Altimadure. Donc on va entendre cet air, Anas, Benes, Passejas, Bous.
Voilà, nous avons entendu Janet Fabien Ayon, j'espère que je prononce bien son nom.
Fabien Yon.
Yon, ah pardon. Fabien Yon. Donc ouais. Je corrige. Alors, quand vous ne faites pas de la musique, quand vous ne dirigez pas, quand vous ne créez pas des opéras, qu'est-ce que vous faites, Jean-Marc Andrieux? Vous avez le temps de faire autre chose avec tout ça, du sport? Vous en faites, je crois que vous avez couru des marathons. Donc j'étais très admiratif de découvrir ça.
Oui, mais là, c'est fini.
J'ai
été opéré d'une hernie discale, donc là...
Donc là, c'est un peu délicat.
Bon, je trottine maintenant, mais oui, j'aimais beaucoup courir, ça me faisait beaucoup de bien. Et puis, beaucoup de natation, parce que j'ai fait aussi 10 ans de natation en compétition.
Et du vélo.
Et je m'y remets. Et du vélo, du coup, je
vous êtes mûr pour le triathlon.
Ben, j'en ai fait un à Saint-Jean-de-Luz, je me suis régalé, j'espère que je pourrai en refaire d'autres.
Écoutez, si vous voulez en refaire un, il y a le triathlon de Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, donc il n'est peut-être pas trop tard pour que vous inscriviez.
Je ne pourrais pas.
Une œuvre d'art qui vous a marqué, dont vous avez envie de nous parler? On va revenir dans le Lot avec une, je sais que j'admire beaucoup aussi.
Oui.
C'est aux Arcs.
Ouais, oui, Zadki. En fait, finalement, j'ai parlé de ça parce que on y a joué il n'y a pas longtemps. Je ne connaissais pas. J'en avais entendu parler. Notamment Catherine Kaufmann m'en avait souvent parlé des Arcs. Elle me dit c'est un village magnifique. Et puis, il y a le musée Zadkine. Et quand on a eu cette opportunité d'aller y jouer, j'ai eu un coup de cœur pour ce village. Bon, dans le Lot, il y en a.
Il y en a beaucoup.
Mais j'étais très, très, très impressionné par la communion entre ces vieilles pierres et puis ce Christ-là. Vraiment, c'est
très beau. Mais surtout que si vous ne savez pas trop où il est, vous rentrez dans l'église, vous allez au bout, et puis d'un coup, vous retournez. Alors là,
c'est vraiment, j'étais impressionné. Mais très ému. Et puis là, pas besoin d'explication. On en parlait tout à l'heure, quelquefois on a besoin de clés, mais aussi on peut avoir un accès instinctif et comme ça à la beauté de l'art.
Et Claude Monet, ça vous passionne aussi?
Claude Monet, alors ça c'est un souvenir, les Nymphéas, effectivement, oui on en a parlé, à l'Orangerie donc, à Paris. Ce tableau, ben, je me suis assis, je suis resté, j'ai oublié le temps. C'est extraordinaire. Puis tout ce qu'il a fait, comment il a pu passer une grande partie de sa vie à peindre ce sujet. Nymphéas, je ne sais pas s'il n'y a pas 170
étoiles.
Ça me fascine, quoi. Fascinant.
Le moment en particulier qui vous a marqué, un moment de chant peut-être?
Et oui. Je repense au concert. J'en parlais avec Pierre Manard, l'administrateur de l'orchestre. On a dépassé les 800 concerts depuis la création de l'orchestre.
C'est considérable.
C'est pas mal. Hein. Et il y en a certains qui m'ont vraiment marqué, notamment la Passion selon Saint Matthieu. Ça, vraiment, c'est une œuvre, c'est un Everest musical. J'étais vraiment sur une autre planète quand j'ai dirigé cette œuvre-là. Passion selon Saint-Jean, évidemment, aussi. Et puis, les Vêpres à la Vierge de Monteverdi, ça m'a beaucoup marqué. Voilà, c'est des souvenirs qui resteront gravés. Et puis, quand j'avais chanté pour la première fois une cantate de Bach avec Alex Bourbon, en 75, il y a un moment, là, j'ai eu un choc émotionnel dont je ne me suis jamais remis.
Bon, ouais. Alix Bourbon, donc 75, back avec notre invité, monsieur Andrieux. On parle de livres.
Allez,
on parle de livres, oui, ou d'une personne qui vous a marqué. Si vous m'aviez parlé d'un musicien,
Franz Brüggen. Alors, Franz Brüggen, c'était mon idole, oui.
Flûte à bec.
Ben oui, c'était le...
Les chefs d'orchestre.
Il a créé l'orchestre du XVIIIe siècle. Il a un peu révolutionné, notamment, là j'ai eu un choc quand j'ai entendu l'enregistrement qu'il a fait, je crois que c'était en quelle année, en 86, 87, la 40e de Mozart. Mmh. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire comment il a revisité l'œuvre avec des nuances qu'on n'avait jamais entendues, des phrasés, des crescendo, des choses. Je recommande à tout le monde d'écouter cet enregistrement de la 40e de Mozart par Franz Brüggen au reste du 18e.
Eh bien, écoutez, nous irons suivre votre conseil pour notre plus grand plaisir.
Oui.
Et vous lisez aussi. Il paraît.
Alors, les romans, j'ai eu du mal à trouver. J'en lis beaucoup. Là, j'ai lu quelques Balzac. J'avais quelques lacunes à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé les Rougon-Macquart, là, que j'ai...
Alors, on est dans les grands classiques, quand même.
Oui, je pense quand même les classiques,
c'est
quand
sûres.
Même pas mal du tout. Oui. Hein. Puis après, j'aime bien... Alors, un des derniers que j'ai lu, c'est Maria Szabo. C'est une autrice, on dit, hongroise, La Porte. Là, je recommande, c'est une étude psychologique. Alors, dans les romans, j'aime beaucoup Stefan Zweig. J'adore Zweig, vraiment très très beau. Et puis, j'aime beaucoup les livres scientifiques. Moi, je m'intéresse à mon petit niveau à la physique quantique, parce que je trouve ça...
c'est fascinant, mais c'est quand fascinant. Même un monde très complexe. Faut
et être je suis très curieux, je n'y comprends strictement rien, mais j'adore lire des bouquins, j'en ai lu 7 ou 8, notamment Helgoland là de Carlo Rovelli où il explique je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on va rien comprendre moi non plus, mais avec Heisenberg justement le principe d'incertitude des particules élémentaires. Et ça me fascine, je suis curieux en fait comme avec la musique. Et puis j'ai adoré un livre aussi, c'est La vie secrète des arbres d'un auteur allemand, là le nom me revient pas comme ça.
Il s'appelle Peter Walben.
Oui, voilà, c'est ça.
Nous en avons parlé il y a quelques minutes, puisque j'ai enregistré mon émission Arcania. Nous avons beaucoup parlé de la forêt avec Bernard Rousseau, qui est grand spécialiste de la forêt. Et donc, nous avons évoqué effectivement le nom de Peter Walben.
Eh bien, si vous lisez ce livre, vous
regarderez
les...
Oui.
Enfin, auditeurs, chers auditeurs, si lisez ce livre, vous ne regarderez plus les arbres de la même...
C'est exactement le commentaire que j'avais fait, c'est si vrai. Vous ne l'avez pas enlevé de la bouche. Parce que moi, quand je l'ai lu... Pourtant, je passe beaucoup de temps sur mes causes du Lot avec mes arbres.
Oui.
Eh bien, depuis que je l'ai lu, c'est tout à fait pareil. Je n'ai plus le même rapport avec mes arbres.
C'est extraordinaire.
Ah, oui, tout
extraordinaire.
À fait.
Oui.
Alors moi, je vais vous parler de deux livres. J'avais annoncé tout à l'heure le premier. Je pense qu'il faut que tous les gens et qui travaillent dans la culture et les autres aussi le lisent. Ça s'appelle SOS Culture. C'est de Serge Regourd.
Je sais pas si vous connaissez Serge Regourd, bien sûr.
Qui est élu aujourd'hui à la région, qui est le président de la commission culture de la région,
À qui j'adresse mes amitiés.
Voilà, qui on a eu quelquefois à ce micro. C'est aux éditions Indigènes. Alors, SOS Culture, c'est un tout petit livre, mais alors, c'est de la dynamite.
C'est un manifeste.
C'est un manifeste. On en a assez peu parlé, mais quand vous le lisez, vous comprenez qu'un certain nombre de gens ne vont pas vous en parler. Voilà. Je l'ai vu dans la bibliothèque de notre DRA, qui est venu ici, avec qui j'ai fait l'émission, le directeur des affaires culturelles, M. Roussel. Il est assez critique vis-à-vis des fonctionnaires
des
de la culture, mais des institutions. Mais bon, nous savons aussi qu'il y en a certains qui font admirablement leur métier.
Bien
je crois
sûr.
Que ici dans la DRAC de Midi-Pyrénées, mais d'Occitanie, il faut dire maintenant, on est quand même bien entouré et bien encadré.
Oui.
Et puis un autre livre, on a beaucoup parlé d'opéra, alors ça s'appelle L'opéra s'il vous plaît, c'est un plaidoyer pour l'art lyrique de Jean-Philippe Thiellet, vous le connaissez peut-être,
non,
c'est aux éditions
pas.
Les Belles Lettres. Alors Jean-Philippe Thiellet a dirigé Paris, donc il est. Sa question, est-ce qu'on ira encore à l'opéra dans quelques années? C'est un peu les thèmes qu'on a abordés tout à l'heure. Donc il s'interroge, parce que ça fait quand même 400 ans que l'art lyrique est là, on dit toujours qu'il va mourir, mais bon, il est encore là.
Oui.
Mais c'est vrai que tous les signaux sont quand même un peu rouges. Hein. Il y a la malédiction des coûts croissants, tension dans les finances publiques, on en parlait, le mécénat, parfois des mises en scène, allez, on peut le dire parce que c'est le mot de Thiellet, un peu ringarde.
Bien sûr.
Donc il va falloir rafraîchir tout ça. Il y a la génération Z qui s'est éloignée, qu'il va falloir ramener. Il y a eu le Covid-19, vous en avez été victime.
Hein, oui.
L'accélération des périls qui a entraîné beaucoup, la fermeture de salles aujourd'hui. Voilà.
Je me permettrai de rajouter que je suis inquiet de la mauvaise répartition des moyens sur le territoire français. J'ai cru entendre, c'est peut-être plus à jour ça, mais que 80% des crédits de la culture sont consommés par 20% de la population, c'est-à-dire dans la région parisienne.
Et ça se dit, oui, ça se dit. Alors on est en province, on va nous dire qu'on est des jaloux et des revanchards provinciaux.
Mais il n'empêche qu'on ne voit pas encore, au niveau de la culture, je trouve, les retombées de la décentralisation. Il faudrait quand même que les régions, comme en Allemagne, aient davantage encore de moyens et de prérogatives pour animer des maisons d'opéra, des maisons, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
Oui, c'est maison d'opé. Il faut aussi aller, comme le font certaines compagnies, il faut quand même aller en campagne, entre guillemets. Il faut sortir des grandes villes, il faut sortir des grands opéras, des grandes institutions. Mmh. Il faut aller peut-être...
Et créer des troupes comme il y en avait avant.
Oui, créer des troupes à la Molière.
Et alors, il y en a pas assez. Il y a Toulouse, Montpellier, en Occitanie. Mais il pourrait y avoir au moins 7 ou 8 villes qui pourraient accueillir des petites troupes et qui feraient vivre...
Oui, puis il y a une action pédagogique, à l'évidence. Moi, j'ai vu des gens qui rentraient dans une salle, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Alors, on peut parler des Oz, hein, puisqu'on a parlé tout à l'heure des Oz. Oui. Et j'ai vu des gens venir écouter un opéra et Oz. Ils ne savaient absolument pas ce que c'était. Donc, on parlait dans le hall et je leur expliquais un peu qu'est-ce qui allait se passer. Et ils savaient pas où ils allaient. Très franchement, ils savaient pas où ils allaient. C'était la première fois. Et bien, quand ils sont sortis, ils sont venus me voir et j'ai vu des yeux qui brillaient. J'ai vu des gens enthousiastes.
Et oui.
Donc, le spectacle vivant, c'est quand même quelque chose qu'on ne remplacera pas. C'est la communion aussi avec les autres spectateurs. C'est la musique, c'est le chant,
l'art total.
Voilà.
C'est vraiment toucher l'œil, l'oreille, tout.
Ouais. Et puisqu'on parlait de livres, il faut peut-être lire. Le livre du sociologue Gérald Bronner, Apocalypse cognitive, qui va vous expliquer que les temps de cerveau aujourd'hui sont volés par les écrans et par des grands spécialistes qui savent les détourner à leur profit et pour vendre
bien sûr
toute leur camelote, si vous me passez l'expression. Et là, on comprend aussi pourquoi beaucoup de gens s'éloignent, parce qu'il y a des techniques de captation d'attention et de vol d'attention, et on en est aujourd'hui cruellement victime.
Bien sûr. Écran interdit avant l'âge de 4 ou 5 ans, je crois. Hein.
Oui, mais c'est pas à cet âge-là. Mais bon, c'est même après. Quoi. Quand je prononçais ces trois mots tout à l'heure, appauvrissement, standardisation et nivellement par le bas, je pense que c'est un peu ce qui guette. Et la musique, certaines musiques, la musique classique, et puis aussi l'opéra, tout ce qui est l'art lyrique.
La culture en général.
Mais il faut se battre, il faut convaincre les gens, il faut aller vers eux, il faut les ramener dans nos salles.
On ne lâche rien.
Voilà, on ne lâchera rien. C'est comme ça que j'ai conclu mon émission d'ailleurs à Cagna tout à l'heure. Surtout, on ne lâche rien. Donc je vais vous dire aussi, pour la musique et pour l'opéra, surtout, on ne lâche rien. Merci Jean-Marc Andrieux d'être venu passer cette heure avec nous. Je sais que vous avez un programme très, très serré. Donc, je rappelle. Alors, d'abord, on va rappeler, où c'est que j'ai mis mon papier ici. Passion baroque à Montauban, ça démarre vendredi, c'est ça?
Oui.
Ça démarre vendredi
29, là, après-demain. Oui.
Voilà, à l'église Saint-Joseph.
L'église Saint-Joseph, au centre de Montauban, à côté de l'ancien collège.
Et que va-t-on entendre?
On va entendre la messe Assumpta Est Maria de Charpentier, un chef-d'œuvre de l'art baroque religieux français.
Et si on va jusqu'au samedi 30 septembre, il y aura un quatuor éphémère, quatre voix.
Oui, quatre chanteurs a cappella du Moyen-Âge à nos jours. C'est un petit voyage avec les chanteurs de Dulci Jubilo de Christopher Gibert.
Donc c'est le 29 septembre, du 29 septembre au 8 octobre 2023 à Montauban. C'est à côté de Toulouse, c'est aux portes de Toulouse. Donc
c'est la banlieue maintenant.
Voilà, on ne peut pas dire la banlieue, parce que c'est un peu péjoratif.
L'occasion de venir voir une très jolie ville. Hein.
Voilà, c'est l'occasion de voir une belle ville, bien, bien rénovée, dont le centre est tout à fait agréable et sympathique. Vous entrez, y aller impromptu, variation Goldberg aussi, de Bach.
Alors là, il ne faut pas y aller, c'est complet.
Ah bon, c'est complet, donc ça ne m'étonne pas trop non plus que ce soit complet. Enfin, allez sur le site, parce qu'il y a un site, j'imagine, bien évidemment, il y a toujours un site. Passion Baroque. Que du 29 septembre au 8 octobre, il y a vraiment de quoi vous faire plaisir, de quoi vous émouvoir, donc il ne faut pas se priver. Et puis bientôt dans les bacs, on va avoir les CD de Daphnis et Alcimadur. C'est prévu pour quand la mise en...
Sortie du disque de chez les disquaires le 20 octobre, mais sinon bon, si on vient au Festival Passion Baroque, on peut l'avoir avant tout le monde et moins cher que tout le monde en plus.
Bon, écoutez, on ne peut pas mieux dire, mais je vous le rappellerai de toute façon à ce micro. Encore une fois, Jean-Marc Andrieux, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. À la technique et aux manettes, Léo Touroult. Et puis cette émission, vous pourrez la retrouver en podcast avec tous les autres podcasts sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à tous et à toutes.